Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette rencontre assez, je dirais, incroyable et croustillante en fait. Hein. On va essayer de la déguster comme un, je dirais, comme un bonbon sucré en fait. Nous accueillons Alexandre Cléris, donc je dirais dessinateur de son état, et Thierry Smolderen, donc scénariste et accessoirement historien de la bande dessinée entre autres. Donc vous allez un petit peu plus nous parler de votre parcours individuel et puis de votre parcours commun depuis votre rencontre de ces deux univers. Et cette petite heure de rencontre va se dérouler, je dirais, un petit peu à l'image de l'exposition elle-même, c'est-à-dire une joyeuse ribambelle d'images et d'objets qui vont nous être présentés sur l'écran derrière nous. Donc pour l'instant, nous avons juste l'interface, c'est-à-dire l'image avec laquelle Alexandre a vécu pendant de nombreuses nuits blanches, j'imagine, à savoir donc son logiciel Illustrator ouvert ensuite et son image de travail donc sous les yeux. Cette bande dessinée, c'est l'ouverture d'un univers qui, au départ, paraît complètement, enfin qui est complètement coloré et qui nous amène dans un voyage que je qualifierais d'empathique. Et je crois que le mot n'est pas innocent par rapport à votre texte. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu individuellement et après on revient sur le travail commun qui nous a amené ici aujourd'hui.
Moi, je suis donc dessinateur depuis environ 7 ou 8 ans. J'ai fait deux premiers albums qui s'appellent donc Jazz Club et Trompe la Mort. Mon parcours, j'ai d'abord un parcours de graphiste. J'ai fait mes études dans la publicité, l'édition, la communication visuelle. C'est là d'ailleurs où j'ai appris à manipuler les logiciels que j'utilise pour travailler maintenant dans la bande dessinée. Étant toujours passionné de BD depuis l'enfance, je suis retourné vers mes amours de jeunesse en entrant à l'école de l'image à Angoulême, où il y a une section bande dessinée et dont Thierry est l'un des professeurs. Autour de la dernière année de bande dessinée, j'ai entamé une sorte de feuilleton qui s'appelle Jazz Club, que j'ai fait passer sur le site Coconino World, qui était à l'époque animé par Thierry Smolderen, un site internet où peut-être il vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Grâce à ça, en fait, j'ai pu avoir un album complet assez vite en sortant de l'école et le publier dans la foulée chez Dargo. Et ensuite, je suis rentré à la Maison des Auteurs, qui est un atelier de résidence à Angoulême, le premier atelier de résidence pour auteurs de bande dessinée. Ce qui m'a permis de travailler confortablement pendant quelques années. Et maintenant, je suis dans un atelier collectif avec d'autres dessinateurs à Angoulême, l'atelier du Gratin.
Et donc Thierry, tu vis aussi à Angoulême donc.
Alors moi je suis arrivé à Angoulême en 94, en droite ligne de la Belgique, où je suis né en 1954. Le livre Souvenir de l'Empire de l'Atome, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Souvenir, parce que quelque part c'est la résonance des années 50 d'un petit garçon de 6 ans, 7 ans, si on fait prolonger un peu les années 50 dans les années 60. Mon premier souvenir d'enfance, là je remonte plus loin qu'Alexandre dans ma biographie, c'est l'exposition universelle de Bruxelles de 1958, le fameux Atomium et le fameux style Atome qui triomphait à l'époque et qui est un style de design, d'architecture, d'objet, de design aussi textile, toute une atmosphère qui a baigné mon enfance, et qui, d'autant plus que mon père était scientifique et travaillait dans un laboratoire d'aérodynamique. Et on sait que le design années 50 est vraiment un design qu'on peut qualifier d'aérodynamique. Et donc, j'étais vraiment dans cette ambiance-là. Ça a marqué beaucoup j'ai beaucoup de madeleines aérodynamiques dans la tête. Quand on a décidé de faire ce projet, qui est aussi une histoire assez ancienne, mais pour moi, c'est-à-dire c'est, La bande dessinée qui a le plus marqué mon enfance, c'est Z comme Zorglub de Franquin, qui était complètement dans ce design et dans cette atmosphère-là. Franquin était un génie de perception et d'intelligence graphique et visuelle, qui avait tout compris sur cette époque et sur ce qui tramait, et notamment les aspects négatifs de cette époque-là aussi, parce que derrière ce design extrêmement séduisant et extraordinairement enveloppant, il y avait aussi une industrie, des armes, l'Amérique, l'atome, etc., des choses qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui considérées comme des valeurs positives. Et je pense que Franquin, avec une prescience extraordinaire, en créant le personnage de Zorglub, a créé un personnage qui était un petit peu l'émanation de ce design, ce qu'il devinait derrière comme type d'intelligence et d'arrogance aussi, d'une civilisation dirigée vers le futur, mais un futur qui était complètement basé sur le modèle américain et sur le moderne, sur le modèle commercial et publicitaire de l'époque. Et la création de Zorglub, en décantant ce personnage et cette histoire dans le temps, en y réfléchissant bien des décennies après, je me suis rendu compte qu'il y avait là, en fait, il y avait moyen de déconstruire le Z comme Zorglub de Franquin et comprendre réellement à travers cette histoire-là tout cet univers qui est celui de la publicité et du design de l'époque. Et donc, je suis perdu dans une digression.
En fait, lorsqu'on lit l'album donc, Souvenir de l'Empire de l'Atome, effectivement, derrière les couleurs, disons, chatoyantes, derrière cette, je dirais presque ce space opéra délirant, on sent quand même cette critique qui n'est pas... Enfin, cette critique, il y a toute cette image de poésie, de nostalgie, et cette critique, disons, presque politique, effectivement, derrière l'objet... je dirais attractif, attrayant, se cache voilà, l'ouverture à la consommation et donc de la manipulation et autres.
Voilà, et je pense que cette ambivalence sur laquelle qui est vraiment au centre de cet album, cette ambivalence, on la trouve chez Franquin, en fait. Quand Franquin passe son temps à opposer la turbotraction à la Ford T, c'est-à-dire à le design... des années 20 ou des années 10, encore victorien, et qu'il oppose ça au design moderne, on sent bien qu'il y a une ambivalence chez Franquin. On sent bien qu'il est du côté de Gaston émotionnellement et politiquement et idéologiquement. Et en même temps, on sent bien qu'il prend un plaisir fou à dessiner des architectures contemporaines, des designs de voitures fabuleux, etc. Et c'est cette ambivalence-là, c'est ce mélange de séduction calculée au millipoil près et en même temps de danger, d'hypnose, qui est aussi présent dans le personnage de Zorglub, hein, puisque Zorglub inventé une onde qui oblige les gens à acheter des savonnettes. C'est pas pour rien. C'est ce qu'on a à l'époque, dans les années 50. Il y a un Américain qui s'appelle Vance Packard qui a écrit un livre qui s'appelle La persuasion clandestine et qui est un résumé de toutes les techniques de persuasion utilisées par la publicité. C'est de ce livre-là que date la conscience que les gens ont de phénomènes comme les images subliminales et ce genre de choses-là, les associations d'idées, le fait de mettre toutes ces techniques de persuasion qui sont utilisées par les publicitaires. Et donc, voilà, c'est un univers extraordinairement séduisant, avec des artistes fabuleux, les designers graphiques de l'époque, des gens comme Lucien D, qui faisait le textile à l'époque, étaient des gens brillants d'invention, qui étaient nourris d'ailleurs de choses tout à fait respectables. Par exemple, une influence majeure de l'époque dans le design, c'était Miro, qui ne peut pas être taxé d'être un hypnotiseur pro-publicitaire, mais repris par, compris par les publicitaires et utilisé dans ce sens-là. Donc c'est un album où ces contradictions sont mises en exergue, si vous voulez.
Mais je trouve qu'il y a un objet que l'on trouve dans l'exposition, et on l'a vu tout à l'heure, en fait, qui, je trouve, représente pas mal... cette attraction-répulsion, et puis cette attraction, disons, à des fins de consommation et à des fins, je dirais, un peu négatives, c'est des flingues hyper colorées, quoi, en fait. Les pistolets laser joués, c'est vrai qu'aujourd'hui, même par rapport, par exemple, aux faits divers, par exemple, américains et autres, avec les ventes d'armes et autres, on se dit que la volonté qui a amené à colorer un flingue à ce point-là, en fait, pour le rendre séduisant, justement, c'est quand même quelque chose de foncièrement pas innocent, en fait. Mmh. Et c'est ce que je trouve dans la bande dessinée, en fait, dans votre album, c'est derrière un aspect, disons, innocent, derrière cet aspect séduisant et autres, il y a un vrai discours politique, disons, on est dans 1984, quoi, plus quasiment, quoi. Donc, Et alors, quand je vois vos deux univers, est-ce que, parce que d'un côté, on a donc la perception, un petit peu le graphisme d'Alexandre, qui est quand même, je trouve qu'il y a cette nostalgie, il y a cette poésie. Enfin, je vois sur les deux albums, il y a quand même un travail. J'ai l'impression qu'il reste un travail resté tourné vers l'enfance, en fait. Alors, et donc, comment est-ce que la rencontre des deux s'est opérée, en fait ? Parce que donc, il y a eu les cours, mais entre les cours et cet album-là, il s'est passé quelques années, puisque sinon, ce serait celui-ci, le premier de la série.
Oui, alors, le premier album, le feuilleton qu'Alex avait commencé dans mes cours, si je me souviens bien, enfin, où c'était à peu près, c'était sous... Je pense qu'on avait lancé ça presque comme un exercice, quoi, de lancer un feuilleton chez les étudiants. Je ne sais pas pourquoi il est parti sur cette ambiance colorée, ces ambiances qui m'ont moi parlé comme étant très caractéristiques des années 50. Et d'ailleurs, ça commençait dans les années 50 ou 60, au début des années 60. Pendant que j'étais en train de réfléchir à cette histoire, c'était une longue gestation. J'essayais de, comme toujours d'ailleurs dans les scénarios, essayer de voir ce que deviendrait le scénario s'il était dessiné par un, par un autre, si c'était dessiné réaliste, si c'était dessiné avec un style, par exemple Spirou, ou si c'était dessiné avec autre chose. Et le style d'Alex, ce style qui fait penser au dessin très stylisé, très schématique et en même temps très pur des années 50. Peu à peu, il s'est imposé comme une évidence que si je devais le faire avec quelqu'un, ce scénario, ça devrait être avec Alex, quoi. Et après, ça n'a pas été une ligne droite, hein. Il y a eu du feedback entre nous, des allers-retours. Voilà.
Et alors, du coup, cette rencontre, voilà, mais du point de vue du dessinateur, alors.
C'est vrai que moi, quand j'ai commencé mon premier album Jazz Club, j'avais une image en fait du style des années 50 qui était peut-être un peu plus de premier abord, quoi, assez, qui me ramenait aux souvenirs de dessins animés que je voyais, Hanna-Barbera et tous ces trucs-là quand j'étais gamin. Et là, le fait que Thierry me propose ce projet-là me permettait de développer cet univers, mais sans rester à la surface, aller voir les influences de ceux qui ont inspiré en fait toute cette vague-là, quoi, et d'où ça venait. Donc des illustrateurs encore plus anciens, qui étaient plus méconnus, mais qui ont eu une influence énorme, comme Charlie Harper ou Jim Flora ou les Provencen, en fait. Pour illustrer les années 50, d'habitude, on a l'habitude de voir plutôt la vague des Serge Clair, Chaland, cette ligne claire qui est magnifique et que j'adore. Mais justement, on a pris le parti d'aller puiser plus dans l'illustration et dans le graphisme, en fait, de cette période-là. D'où l'aspect coloré et le rapport à l'enfance dont tu parlais tout à l'heure, quoi. C'est ce côté gourmandise et vivant, peut-être plus abstrait, des fois la limite entre l'illustration et la bande dessinée, ce que j'ai essayé de retrouver un peu dans la narration, c'est-à-dire essayer d'enlever les cases au maximum, d'épurer, de mettre des personnages sur fond blanc, et à côté de ça aussi des images très cadrées, Donc voilà, j'essaie de jouer sur ce mélange-là, un peu polygraphique, quoi. Ça a toujours été un rêve d'essayer de faire un album qui touche un peu à tous ces domaines, en fait.
Alors ça, c'est pas de lui.
Où on peut passer du noir et blanc à la couleur. Et jamais j'ai réussi à trouver l'histoire qui correspondrait, qui justifierait ça, quoi. D'accord. Et là, dans l'Empire de la
enfin dans le scénario liberté, quoi,
que Thierry proposait, permettait des allusions, de reprendre des styles des années 30 de Buck Rogers. Ça a été un énorme pied à réaliser. Ça a été même difficile d'en sortir parce que c'est... C'était vraiment.
Ça a duré combien de temps la fabrication de l'album en fait,
à peu près 2 ans et demi, à peu près, voilà, du moment où j'ai commencé jusqu'à ce que je termine, quoi. Donc à peu
et
près.
Alors juste sur le processus, tu passes par un croquis, une mise en page à la main.
Alors alors je travaille moi directement sur Illustrator. Donc j'ai pas de croquis, pas de storyboard, pas de crayonné. Je pars de la page vierge et je construis. Ma mise en page au fur et à mesure. Je pose mes dialogues sur des fonds colorés, puis au fur et à mesure, j'intègre les personnages, j'intègre du décor, mais le logiciel me permet de travailler comme une sorte de collage, en fait, et de pouvoir toujours... ben là, on voit c'est exactement cette façon-là de travailler, quoi. Donc par calque, par couche, j'ai comme si j'avais une grande page blanche autour de mon dessin.
Oui, c'est le bac à sable.
Donc voilà, et puis j'ai des éléments que j'ai fait dans d'autres pages que je peux reprendre, retravailler, des bouts de texte. Je peux mettre des photos pour m'inspirer aussi. Donc c'est comme si j'avais un grand terrain de jeu et je compose mes images comme ça petit à petit, peut-être des fois même tout en même temps. Je travaille sur un bout de case, quand je sens que je bloque un peu, je passe à une autre image de la page. Puis j'essaie de travailler aussi en double page, avoir une harmonie colorée, que non pas la page mais la double page ait un impact, quoi, sur tu peux continuer.
L'absence de cases, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve par contre sur tous les albums, en fait. Enfin,
le cerné.
Voilà, alors tu dis aimer la ligne claire, mais finalement, tu ne la pratiques pas, quoi.
C'est vrai que, alors quand j'ai fait cette technique un peu, mon idée c'était d'avoir, je sais pas comment dire, mais d'avoir le même effet que la ligne claire, c'est-à-dire quelque chose de pur, enfin. Et là, du coup, ça se fait au niveau des contrastes colorés, quoi, et des jeux entre les couleurs qui permettent. Alors, par contre, dans celui-là, j'ai rajouté un petit peu, le trait revient un petit peu, mais vraiment de façon très ponctuelle pour souligner certaines attitudes, certains traits.
Je vous recommande ce passage de la bande dessinée parce qu'il est aussi flippant que l'intro de La Guerre des Mondes, en fait.
N'exagérons rien.
Et là, oui, le fait de revenir avec un petit peu de trait me permet de ressouligner des petits aspects. Ça serait plus ce que j'emprunterais à Sampé, par exemple, dans le côté épuration du trait.
Et alors, tu as ton écriture graphique assez personnelle, mais tu as quand même fait des recherches, j'imagine, pour les caractères, en fait, les personnages qui sont quand même foncièrement différents d'un album sur les uns sur les autres. Mais
là, le personnage principal qui s'appelle Paul, il est basé sur un personnage existant, en fait. On n'a pas du tout parlé de l'histoire. On parle là du traitement graphique et des images, mais l'histoire est basé sur un personnage qui est réel, qui est Paul Lindberger, dont c'est le vrai nom, c'est celui-là, mais il est connu en science-fiction sous le nom de Cordwainer Smith. Et c'est un écrivain américain très très original, très spécial, qui est resté un mystère pendant très longtemps, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort. Personne ne savait qui il était réellement, parce que c'était quelqu'un qui travaillait pour les services secrets américains, qui était un spécialiste du théâtre asiatique, qui avait passé son enfance en Chine. Et qui parlait plusieurs langages asiatiques, qui est l'inventeur de la guerre psychologique, qui a écrit le premier traité sur la guerre psychologique dans les années 40, qui a écrit à 16 ans l'essai le plus important sur la politique chinoise des années 20. Et Lindberger a commencé à publier des nouvelles de science-fiction sous le nom de Cordwainer Smith. C'était des nouvelles qui ressemblaient à rien du tout, à rien d'autre. C'est d'un baroque extraordinaire. C'est plein d'allégories. C'est une écriture qui était conçue probablement, qui était approchée comme du surréalisme certainement à l'époque, mais qui devait autant à Shakespeare et à la culture
réunie sous le
nom des seigneurs de l'instrumentalité. Et il se trouve que dans les milieux de la science-fiction, quand on a découvert son nom, des gens ont fait le rapprochement. Il y a eu une rumeur qui a couru selon laquelle Cordwainer Smith était aussi le patient qui est célèbre, connu sous le nom de Kirk Allen dans les ouvrages de psychologie. Et qui souffrait d'une espèce de pathologie de monde imaginaire et dont un psychologue dans les années 50 avait fait la psychanalyse et avait écrit un article racontant son cas. C'était le cas du patient Kirk Allen, donc un pseudonyme sûrement, qui avait été repéré, qui travaillait au Pentagone sans doute, en tout cas qui était très surveillé par ses chefs parce qu'il était dans un domaine très sensible, soit atomique, soit le Pentagone, soit les services secrets américains comme Lindberger, et dont les chefs avaient découvert dans le bureau, dans les tiroirs, des empilements de cartes et de textes décrivant un monde stellaire tout à fait différent, avec des orbites de planètes, des descriptions dans le détail de civilisations et de rapports économiques, etc. Et donc cet article qui décrivait la psychanalyse de ce bonhomme, qui racontait que depuis l'âge de 13-14 ans, il vivait dans ce monde imaginaire une partie de son temps. Et dans les milieux de la science-fiction, on avait fait le rapprochement, on s'est dit que ça ne pouvait être que Cordwainer Smith, ce personnage-là. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui s'intéressent à ce cas-là et qui essaient de voir si c'est possible. La fille de Cordwainer Smith elle-même commence à être convaincue que ça pourrait bien être son père. Et effectivement, il y a des points de rapprochement entre les deux, en sachant que le psychanalyste a transformé un certain nombre de données biographiques pour qu'on ne reconnaisse pas le patient. Ben, quand on fait le rapport entre les deux, on voit quand même des similarités, des similitudes qui sont très frappantes. Et donc, ça et Zorglub sont les deux influences principales pour le scénario. Je n'en dis pas plus long, sinon je vous raconte l'histoire, ce qui n'est pas le but de l'affaire.
Oui, cette influence-là, elle est quand même omniprésente, puisqu'on est la référence des... Là, on parle de l'espace Chaiol, par exemple, mais toi, la planète Chaiol, tu la mets en scène. Ouais.
Voilà, donc il y a quelques petites références à l'univers de Cordwainer Smith. On n'a pas cherché à faire vraiment un portrait de cet univers qui est impossible à faire dans un cadre comme celui-là. Mais, par exemple, on fait allusion à la fin de l'album à la planète Chaiol, qui est son invention la plus délirante, son allégorie de l'emprisonnement qui est absolument extraordinaire. Donc voilà, ça fait partie des données de base de l'histoire. Mais ça aussi, ça fait partie des données de base de l'histoire. Le livre est un voyage dans le temps, une façon de... Vous voyez par exemple ces documents qu'on montre là, qui sont des magnifiques designs graphiques de Lucien D pour du textile. Ça, c'est vraiment des machines à voyager dans le temps. Pour quelqu'un qui a vécu les années 50 ou les années 60, Ces formes-là, ces couleurs-là, c'est vraiment des madeleines qui nous ramènent dans des bulles de souvenirs extraordinaires. Et notre travail, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le travail graphique, parce que ça fait vraiment partie du plaisir d'avoir fait cet album. C'est d'aller chercher dans les films, par exemple, cette scène-là, elle est tirée d'un film de 61 qui s'appelle VIP. Qui est un film, je ne sais pas si pas très connu, mais un très beau film avec des décors formidablement 50s, des costumes. On a vraiment travaillé sur la gestuelle, sur les costumes. On est allé chercher des références très pointues pour le... Parce que quelque part, la texture d'un monde, ça passe aussi bien par par les choses les plus petites, les objets les plus imperceptibles consciemment, mais par l'inconscient, on est sensible. Enfin, dire le monde qui nous entoure aujourd'hui, il a une certaine texture. Quand on sera passé dans 25 ans ou 30 ans, quand toutes les formes et tous les objets et toutes les couleurs qui nous entourent aujourd'hui auront été changées par d'autres, on pourra se rendre compte de la texture très particulière de ce monde-là. C'est pas quelque chose dont on se rend compte sur le moment même, mais c'est question de retourner dans un temps, dans une bulle temporelle spécifique. Il n'y a rien de mieux que de passer par les objets. Et une de nos influences aussi, c'est les mythologies de Roland Barthes, qui était l'un des rares visionnaires au milieu des années 50, à se rendre compte de ce qui se passait dans le domaine du design et de la culture populaire, et qui, dans ces petits textes merveilleux que vous connaissez certainement pour la plupart, analysait le design de la déesse, la psychologie du jetman, la psychologie du pilote de jet et d'autres phénomènes comme la publicité, l'époque, etc., qui faisaient une anthropologie contemporaine avec une perspicacité extraordinaire. Donc ça, c'est aussi une de nos influences.
De toutes les références. Et alors, c'est ce qui a servi, disons, d'épine dorsale à la conception de l'exposition, en fait, parce que il faut préciser que cette exposition a été créée par ce collectif pour Angoulême, et donc elle a été amenée ici, en fait, et elle a été, entre guillemets, modifiée, agrémentée et un petit peu augmentée pour être adaptée à la teneur des utopiales. Ouais. Donc elle n'est pas tout à fait la même qui était présentée à Angoulême, vous l'avez découverte d'ailleurs ici. Bon, a priori, ils sont pas repartis en courant, donc c'est que ça devait correspondre à ce qu'ils souhaitaient faire.
J'en profite pour dire qu'on remercie Gilles. C'est Gilles qui a été le scénographe de la version
utopiale. Et donc, moi, ce qui m'a surpris quand même dans cette exposition, quand je l'ai découverte, c'était au départ cette espèce de sensation de fourre-tout, hein, de se dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont accroché au mur, là, en fait ? Parce que, du coup, moi, je venais quand même pour voir aussi, une exposition de bande dessinée. Alors, c'est vrai qu'une exposition de bande dessinée, bon, exposer que des planches successives, c'est pas très rock'n'roll non plus, c'est pas très rigolo. Mais là, du coup, celle-ci, c'est presque une réalité augmentée, en fait. Et c'est comme un livre, on l'ouvre, et puis, paf, vous nous avez mis les liens directement avec Google, ils peuvent aller se rhabiller, là, du coup. Hein. Et donc, là... Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que l'on perçoit sur le mur, quoi, cette accumulation de... Bah, et pourquoi, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans la discussion quand vous avez envisagé cette exposition, pourquoi ce parti pris directement?
Bah, en fait, il faut dire quelque chose. Peut-être qu'on s'y prend mal aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez lu le livre, cette conférence.
On ne va pas spoiler.
Cette table ronde est très bien. Si vous n'avez pas lu encore l'album, si vous le lisez après, vous oubliez tout ce qu'on vous dit maintenant et vous lisez simplement l'histoire. Parce que l'histoire est à double détente. Vous pouvez la lire et vaut mieux la lire une première fois sans se préoccuper de toutes ces références et de tout cet arsenal de connexions, etc. Et il faut pas le voir enfin, il faut pas cliquer sur les images pour essayer de voir ce qu'il y a derrière nécessairement quand vous lisez l'histoire.
De toute façon,
je signale que c'est du papier, hein, mais on peut faire ça mentalement.
De toute façon, le méchant de l'histoire pratique l'hypnose, donc je pense qu'à la fin, il va vous laver le cerveau et puis vous serez tout neuf.
Mais par contre, l'exposition, c'est une deuxième lecture. La deuxième lecture, on peut se permettre, une fois qu'on a passé la première course, de s'arrêter, de commencer à s'interroger sur pourquoi tel objet, ce qu'on raconte là, ce qu'on raconte sur la publicité, ce qu'on raconte sur la bulle de savon, le rapport avec Zorglub, qu'est-ce que ça dit sur le Zorglub de Franquin. Et puis il y a d'autres couches aussi, d'autres couches temporelles qui sont mêlées au milieu des années 50. Et on les voit dans l'exposition. Par exemple, les planches de Buck Rogers que vous voyez dans l'exposition correspondent à un autre moment de la science-fiction du XXe siècle. Ça correspond à ce que moi j'appelle la période pulp barbare de la science-fiction, qui est la période qu'on pourrait dire aussi foraine ou d'attraction, dans lequel toutes les formes, on a l'impression de voir des éléments de carrousel de la foire du trône, quoi. Les machines, les fusées ressemblent à des carrousels de la foire du trône. Et c'était une période purement commerciale de la science-fiction, mais aussi très primitive et très instinctive. Mais il y a encore une troisième couche qui est la période Bauhaus. Et là, c'est le film qui correspond à Things to Come, le film en noir et blanc dont on a projeté un large extrait là, dans l'exposition. Et ça, c'est une période qui représente curieusement le passé de la science-fiction du XXe siècle, la science-fiction victorienne, H.G. Wells, le fameux écrivain de la machine à voyager dans le temps et du voyage sur la Lune. Et de l'homme invisible, qui était un visionnaire humaniste qui s'inquiétait beaucoup de l'évolution de la technologie du côté de la guerre et de l'armement, mais qui en même temps avait une vision, une projection de l'homme dans le grand futur. Et en fait, Cordwainer Smith, l'auteur dont on raconte l'histoire, appartenait à cette génération-là, avait ce type de regard sur la science-fiction et sur le monde. L'histoire des Seigneurs de l'instrumentalité, c'est une saga qui couvre des dizaines et des dizaines de milliers d'années, qui nous raconte l'arc d'évolution de l'homme sur des dizaines de milliers d'années. Et c'est pas du tout la science-fiction des années 50. Un des thèmes de notre histoire, c'est l'espèce de confrontation entre un type qui a une vision de la science-fiction victorienne, humaniste, qui essaie de comprendre le devenir de l'homme et les valeurs de l'homme à très très longue échelle, qui se trouve tout d'un coup sorti de sa bulle d'imaginaire et de spéculation, et se rend compte que le monde a changé autour de lui et qu'il est au milieu d'une période qu'il n'avait pas vu venir, qui est celle de l'atome. Et il se pose des questions sur la réalité de cette période-là. C'est une grille de lecture possible pour notre livre. Et donc les différentes couches graphiques qui se posent dans le livre correspondent aussi à la chronologie de l'évolution de la science-fiction dans le XXe siècle. On a la couche Bauhaus victorienne qui correspond à H.G. Wells. On a la couche primitive barbare Buck Rogers, Flash Gordon. Et puis on a la couche science-fiction époque de l'atome avec cette modélisation un peu à la Calder, Miro et ces influences-là. Donc voilà, ça fait partie aussi du débat. Mais de nouveau, c'est certainement pas la première grille de lecture qu'il faut avoir en lisant le livre. C'est des plus, et c'est ça qu'on a essayé de montrer. Les différents bouquins qui sont montrés dans l'exposition sont sont un choix parmi les nombreuses références qui ont alimenté notre réflexion et notre plaisir aussi de le créer.
Le but aussi étant c'est quand même un livre hommage. Moi, je me suis senti juste comme un espèce de passeur de sensations, en fait, quand j'ai fait ce livre. Tout fait référence, on a pu le voir dans toutes les images que j'ai montrées là et dans ce qu'il y a un peu dans l'expo aussi, c'est que tous les décors sont des décors qui existent ou qui sont vrais. La scène de l'aéroport, il existe. Soit ça vient d'un film, soit ça vient d'une architecture qui existe. Et en fait, donc tout est un lien avec la réalité, le but étant de rendre hommage à toutes ces personnes-là. L'histoire et le dessin se sont mis en hommage, quoi. Donc là, le but de l'expo était aussi de leur rendre hommage en disant, bon voilà, on a fait un livre, mais tout ne vient pas de nous, quoi. Tout vient d'autres personnes. On a juste été la connexion et le mixeur, on va dire, qui a broyé tout ça pour en faire autre chose.
On a échappé à une déesse posée en plein milieu de l'exposition, si j'ai bien compris.
Ah oui, ça aurait été bien. Bonne idée, voilà.
Alors, pour parler quand même d'une période, disons, avec des objets, disons, les, je dirais populaires, la bande dessinée, média populaire, Et d'un autre côté, quand même, un des textes les plus hermétiques de la science-fiction. On est d'accord, quand même, Les Seigneurs de l'Instrumentalité. Tout le monde ne l'a pas lu, tout le monde ne l'a pas perçu. C'est pas vraiment le truc vers lequel on se tourne en premier abord. Donc il y a vraiment un exercice, je trouve, assez complexe et pour le coup réussi pour se servir d'un scénario, raconter une histoire à travers un individu tel qu'il est et mettre en avant en même temps une période qui a priori vous plaît bien quoi. Et puis il se répercute sur le style un petit peu nostalgique d'Alexandre et autres. Donc est-ce que ça aurait pu se faire avec un autre texte, une autre trame, un autre personnage historique ou un autre personnage de fiction?
Par exemple, j'aurais rêvé aussi de faire quelque chose sur Van Vogt. Non, parce que je crois pas qu'on va pas le faire. Oui, il y a des éléments de Van Vogt. J'ai beaucoup pensé à Van Vogt parce que, disons, un élément qui est moteur pour moi, c'est d'imaginer le créateur en train de réfléchir à sa fiction. C'est le thème psychanalytique, c'est-à-dire comment on crée cette bulle de fiction. Vous êtes lecteur de science-fiction, sinon vous ne seriez pas là, j'imagine. Vous savez quel genre de bulle cognitive se met en place pendant la lecture d'un livre. Il y a un monde qui se crée autour de vous, vous avez refermé le livre, vous pouvez retourner à ce monde mentalement. Il y a quelque chose d'un peu étrange et un phénomène qui dépasse le cadre pragmatique qui s'explique pas facilement. S'il n'était pas si mystérieux, il serait pas aussi fascinant. Et donc les créateurs de mondes comme Van Vogt ou Cordonner Smith, etc., sont des gens qui sont dont les processus mentaux sont intéressants et mystérieux. Et c'est pour ça que cette histoire de cette possibilité que Cordwainer Smith était ce patient dont la psychanalyse est tellement fascinante m'a entraîné vers lui, vers cette version-là. Mais par exemple, Van Vogt, sa façon de procéder, le fait que...
C'est plus linéaire, certainement. En fait.
Van Vogt utilisait, et dans certains de ses textes décrit comment il utilisait le rêve comme manière de fonctionner. Il mettait son réveil, il faisait sonner son réveil 3 fois par nuit, et chaque fois qu'il se réveillait, il notait son rêve, et le lendemain, quand il écrivait, il utilisait les éléments de son rêve pour faire avancer son histoire. C'est pour ça que quand vous lisiez Le Monde des Arts ou d'autres histoires de Van Vogt, les bifurcations sont hallucinantes, il y a des ellipses absolument incroyables, on sent une capacité à changer de direction qui est à la fois très plaisante, très fascinante pour certains. D'autres peuvent être choqués par ce manque de cohérence qui est typique de chez Van Vogt. Moi, j'adore ça parce que justement, on voit fonctionner un cerveau presque en direct. On voit comment l'imaginaire d'un maître constructeur de monde fonctionne. On voit presque les rouages. Et dans cette histoire-là, c'était vraiment l'idée de montrer, finalement, quelque part, ce livre-là, c'est plus la façon dont le cerveau d'un auteur de science-fiction fonctionne que quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment le but du livre, et d'ailleurs la fin du livre montre que c'est en fait la création d'un monde par un auteur de science-fiction qui est le véritable objet du livre. Ouais.
Alors, avant de poser, moi, je vais une petite dernière question. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de faire passer un micro dans la salle pour des questions. Si vous êtes intéressé, vous levez la main et puis on va vous donner un micro. J'imagine que cette exposition soulève quand même quelques questions. Moi, il y a un passage où le héros entend sa propre histoire racontée dans le magazine, je me suis vu dans Philippe K. Dick là en fait. Et du coup, K. Dick aurait pu être un des personnages de cette histoire aussi par rapport à l'époque, par rapport au thème, disons, de ce dédoublement, tous les cas de cette présence du divan qui devait être à un moment donné présent quelque part dans la vie de K. Dick.
Tout à fait. Philippe K. Dick est aussi un de ces auteurs de science-fiction dont la vie et la biographie sont absolument fascinantes. Mais il a fait l'objet déjà. Crumb a fait une une petite biographie de Philip K. Dick qui est vraiment formidable. Il y a eu plusieurs livres biographiques sur Philip K. Dick. Donc là, le sujet est un peu exploité, mais c'est, clairement, c'est quelqu'un que j'aurais pu mettre dans le même... Alors, pour lequel j'aurais pu avoir la même tentation. Quoi, oui.
Alors j'ai quand même une dernière petite question avant de laisser la place au public. C'est lors de la collaboration, est-ce que, peut-être une réponse d'Alexandre, est-ce que le prof a eu tendance à repartir dans ses cours comme si tu étais resté dans les cours avec lui à Angoulême?
Non, pas du tout. Là, on a vraiment travaillé en étroite relation. Alors après, moi, ce qui s'est passé, c'est que je lui montre mes planches et lui, ça lui donne d'autres idées. Et il voit aussi, comme on travaille en ordinateur, il peut aussi intervenir sur le travail dans le sens où une façon de mettre les images... lui permet aussi de lui dire d'affiner des choses et d'aller encore plus loin quoi. Et je suis encore un débutant hein, dans le monde du dessin. Je me sens vraiment au tout début de ce que je peux faire. Donc j'ai senti, enfin Thierry m'a vraiment poussé dans mes retranchements à toujours me tirer vers le haut, vers des choses donc je n'osais pas utiliser, donc comme par exemple le noir et blanc où j'étais vraiment dans l'explosion de la couleur dans les autres livres et où le noir et blanc je l'abordais pas énormément, donc là il y a des pages qui sont quasiment noir et blanc pur. Bon voilà, j'ai je suis allé voir du côté des films noirs pour comprendre voilà un peu plus le clair-obscur, comment il l'utilisait à cette époque. Voilà, essayer d'aller vers encore plus d'élégance et c'est encore un chemin qui est un chemin de croix qui est interminable, sans être un prof, il m'a tiré vers le haut sans arrêt pour arriver à faire
après deux albums en solo, est-ce que du coup ça t'a donné envie de continuer une collaboration ou avec d'autres scénaristes ou est-ce que vous-même vous avez d'autres projets?
En fait, oui, on est en train de travailler sur un prochain bouquin qui aura le même format, le même esprit. On saute d'une décennie, on passe aux années 60, ça paraissait un peu logique. Mais au lieu d'être tourné vers la science-fiction, on sera plus tourné vers l'aspect espionnage. On s'intéresse aux années 60, qui est aussi un univers extrêmement coloré, qui mélange psychédélisme, films d'espionnage, James Bond, les petits bouquins de Diabolique, les aventures de Diabolique, le pop, etc. Donc on est sur un scénario d'espionnage qui vient de commencer là pour l'instant, dans lequel on va faire le même travail. Ce qu'Alex dit peut-être pas, voulait dire tout à l'heure, c'est que dans notre collaboration, d'abord je le vois plus du tout comme un étudiant, ça il faut bien vraiment le dire, on a passé plus de temps comme collègue que comme étudiant, comme dans nos rapports prof-étudiant. Et de toute façon, avec mes étudiants, je les vois comme des futurs collègues. J'ai pas un rapport de prof à étudiant classique, si vous voulez. Mais c'est que là où je pouvais le pousser, c'est à aller assez loin dans les styles différents, les collisions de styles qui sont dans le livre. Ça peut faire peur à un dessinateur de bande dessinée un peu classique a priori, parce que on a tendance à vouloir lisser les styles et à mettre un vernis
imposer une patte,
une patte qui soit la même, alors que là vraiment ça faisait partie de l'histoire de dire non, cette histoire là, ce passage là il est dans un style années 20, ce passage là il est dans un style barbare, celui là il est dans un style atome. Et il s'agissait vraiment de pousser le curseur à fond dans chacun de ces styles pour créer ces collisions temporelles qui faisaient partie de l'histoire.
Est-ce qu'il y a des questions? Bon, tout le monde est super convaincu, ça c'est bien. Donc je vous invite à revoir l'exposition avec cet œil neuf sur cette bande dessinée complètement atypique quand même, il faut bien l'avouer. Parce que effectivement, au-delà de l'apparence, au-delà du contexte, il faut aller gratter pour découvrir un texte quand même d'une profondeur assez incroyable. Je peux vous inviter juste à une question. Si c'est où sont les toilettes, c'est pas moi. Hein.
Merci. J'aimerais, si vous pouvez parler un petit peu de la création de la couverture. Alors, personnellement, je la trouve magnifique, mais en plus, c'est un réel plaisir même à la toucher, parce qu'il y a les reliefs, les dessins dessus. Et ma copine, par exemple, qui a une très mauvaise vue, apprécie également la toucher. Elle est tactile, en plus. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette couverture et l'élaboration? Parce que même les étapes préliminaires sont aussi très belles, en fait.
Alors, ça a été un long travail. En général, j'essaie de, dans le prolongement de l'écriture du livre, je fais ponctuellement, des fois, j'ai des images qui me viennent, donc je fais des bouts de couverture. Et donc, pour des pistes possibles. Et puis, souvent, dès le début avec l'éditeur, ça a été un truc qu'on a mis en place. Et si on fait ce livre-là, on le fait en un seul tome. Et on fait un livre objet, quoi, on va dire, le plus possible avec les moyens du bord et le côté économique possible pour le réaliser. Et, dès le début, l'éditeur était partant pour trouver un papier, un truc qui fasse quelque chose en plus, le vernis sélectif et toutes ces choses-là. Et du coup, on a mis pas mal de temps à chercher. J'ai fait une trentaine de recherches de couverture. Mais en fait, on s'est beaucoup inspiré de ce que faisaient les graphistes et les peintres, en fait, qui travaillaient surtout dans les publicités de l'ère spatiale, en fait, des années 50. Donc l'utilisation de ces couleurs, des couleurs vives en aplats, des formes géométriques alliées à des formes plus organiques. L'inspiration de la peinture aussi dans leur graphisme, celle de Miro dont on parlait tout à l'heure, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai essayé de condenser tout ce qu'il pouvait y avoir en graphisme à cette époque-là pour arriver à... Voilà, un consensus autour de ça et quelque chose qui soit visible de loin, qui soit une sorte de bonbon, quoi, une gourmandise qui attire vers le rêve. Et le,
ouais. Alors, on a découvert quelque chose, c'est un peu un hasard, mais après coup, ça nous a fait assez rire. C'est que ces éléments graphiques qui sont là, les espèces de lignes là, ces espèces de textures colorées qui sont mises en doré sur la couverture, c'est directement tiré d'affiches de l'époque de l'ère spatiale dans lequel on essayait de recruter des ingénieurs. Et en réalité, on était étonnés du côté attractif de la couverture, parce qu'on a bien vu quand le livre est sorti que les gens le prenaient en main et qu'il avait tendance un peu à sauter dans les mains des acheteurs, ce qui est toujours... une bonne chose, hein, on est d'accord. Et en fait, on s'est rendu compte, on s'est dit, mais c'est idiot, on a pris des trucs qui étaient faits par des spécialistes de l'affiche de l'époque, sans s'en rendre compte, on a pris des attracteurs, quoi. On a pris des objets hypnotisants fabriqués à l'époque par les maîtres de l'époque, et on les a mis sur notre couverture. Donc par référence graphique, mais ça marche.
Votre propos a été mis en abîme sur la couverture. Vous êtes fait capter par votre propre propos.
Capté, mais là, pour le coup, c'était plutôt pour la bonne cause, en tout cas pour notre bonne cause. Et puis sur l'aspect tactile du livre, là, c'est une heureuse coïncidence, enfin une heureuse convergence d'éléments. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment l'éditeur qui a eu cette idée. Comme on voulait utiliser ce qu'on appelle le vernis sélectif, c'est-à-dire une couche de brillance posé sur le papier, sur la couverture. On ne voulait pas faire un effet trop mastoc ou trop brutal ou trop visible.
Ou faussement rétro ou faussement vieux. Voilà, ou faux vieux, ouais. On a voulu éviter le faux vieux surtout. Et
donc on a mis ces lignes géométriques en doré. Et comme ils ont choisi un papier... Un carton de couverture un peu rugueux, ce mélange de lisse dorée sur un carton rugueux donne à la sensation tactile quelque chose d'assez magique qu'on n'avait pas prévu au départ et qui participe de la tentation. D'ailleurs, je vous invite à venir tester tactilement le livre.
Bon, sauf si vous êtes en train de manger un goûter. Hein.
Il y a un piège à loup dedans.
Une séance de dédicace aussi à 17h pour continuer la séance d'hypnose.
Là, c'est bon, je crois qu'ils sont tous hypnotisés. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Parce qu'il va bien falloir qu'on laisse les places chaudes à nos successeurs. Voilà. Mais je voudrais remercier donc Thierry et Alexandre pour ce joyeux bonbon sucré qui nous ont amené à déguster. Et je vous invite donc à la feuilleter, à l'ouvrir effectivement, à la lire et, comme dit le gourou Thierry, à l'acheter. Bon après-midi.
Voilà, merci beaucoup.